Actuellement, quand j'écoute les médias classiques, la télévision, la radio, je vois que finalement la crise passe un peu au second plan des nouvelles. Ça y est, l'affaire est finie, l'affaire est soldée, sauf peut-être pour les salariés qui attendent les futurs licenciements. Mais c'est fini.
Alors, je n'ai pas exactement ce sentiment. Je crois tout simplement que les médias ne peuvent pas parler de la crise tant qu'il n'y a pas de nouvel événement. Il me semble que ce que disent les médias, c'est « nous sommes en crise ». Oui, tout le monde l'admet. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. On reconnaît que la crise sera longue. On reconnaît que la crise aura des conséquences sociales importantes. Maintenant, les médias audiovisuels, télévision et radio, ont ceci de particulier que ce sont des médias qui doivent capter l'attention immédiate, contrairement à l'écrit. L'écrit peut se reconsulter, si vous voulez. L'écrit n'est pas dans l'immédiateté. L'audio et le visuel sont dans l'immédiateté. Et donc, on attend un événement spectaculaire. Il y en aura. Ne nous faisons aucune crainte. On aura l'occasion de reparler de chutes boursières importantes, on aura l'occasion de reparler de faillites importantes, de banques, de très grandes entreprises. Donc, le média audiovisuel trouvera à s'alimenter. Maintenant, il est vrai que ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est beaucoup plus diffus, mais qui n'en est pas moins important. Alors, tout d'abord, nous allons avoir une série de défaillances d'entreprises. Défaillances d'entreprises parce que la consommation stagne, voire baisse. Défaillances d'entreprises parce que les banques, quoi qu'elles disent, ont réduit leurs encours de crédit. Alors, non pas les encours de crédit qui figurent au bilan, d'une certaine manière, et qui sont les crédits accordés sous contrat, mais elles les ont réduites à travers les facilités de découvert. Or, ces facilités de découvert qui, très souvent, ne sont pas contractuelles, là, les banques peuvent agir de manière parfaitement discrétionnaire, et on sait que ça a un impact sur les petites et moyennes entreprises qui est absolument dévastateur. À la limite, les très grandes entreprises peuvent gérer des problèmes de liquidité immédiate, pas les PME-PMI. Donc là, on a un très gros problème. Nous avons une autre bombe à retardement qui est en train de s'amorcer et qui va exploser durant cet hiver et au début de ce printemps, c'est tous les rachats d'entreprises qui ont été faits avec un endettement par effet de levier. Alors, pour parler le jargon des économistes, qui est évidemment un jargon en anglais, on appelle ça le leverage buyout. Buyout, c'est un rachat d'entreprise à effet de levier, leverage, parce que, en fait, c'est un holding ou une holding qui rachète l'entreprise en émettant de la dette gagée sur la valeur de l'entreprise. Et l'idée, bien entendu, c'est que on va accroître la valeur de l'entreprise en licenciant, en améliorant par une pression très forte sur les salariés les résultats. On va pouvoir revendre l'entreprise au bout de 3 à 5 ans, c'est-à-dire quand la dette arrive à échéance, avec une plus-value très significative. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est qu'on ne trouvera personne pour acheter ces entreprises. En tous les cas, pas au prix auquel on voudrait les vendre. Tout simplement parce que l'activité économique est en train de se contracter. Donc, ces holdings ne pourront pas rembourser les dettes qu'elles ont souscrites pour ces opérations. Les holdings seront en faillite. Et les gens qui ont prêté au holding se rembourseront en mettant les entreprises en liquidation. Et donc, on va avoir une vague de défaillances d'entreprises, sauf si le gouvernement faisait quelque chose d'intelligent, au moins en France, et rachetait ces entreprises, après tout. Pourquoi pas? Quitte à les revendre quand la situation sera meilleure. Mais on pourrait imaginer que le gouvernement, que le système public bancaire, la Caisse des dépôts, se porte garante, ou en tous les cas rachète les dettes, et quand les holdings doivent rembourser, on dit, voilà, c'est nous qui allons vous racheter l'entreprise, Alors évidemment, on ne va pas vous faire un taux de profit énorme, mais au moins on vous évite de faire faillite. Hein. Et ce faisant, on éviterait que les entreprises elles-mêmes soient mises en faillite, soient mises en liquidation, quitte à ce que, quand on retrouvera de la croissance, quand on en retrouvera, l'État progressivement revende effectivement ces entreprises et réaliserait d'ailleurs très probablement un bénéfice dans l'opération, il faut bien le dire. Bon, mais si on ne fait pas ça, et si on ne le fait pas rapidement, nous allons avoir une deuxième vague de défaillances d'entreprises qui sera une vague importante. Évidemment, les holdings qui feront faillite vont contaminer les banques parce que les banques devront elles-mêmes rayer de leurs actifs les dettes qui n'auront pas été remboursées. Donc ça va venir en plus sur les problèmes actuels des banques. Donc nous avons ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la crise est en train de muter, est en train de prendre un autre visage. La question des LBO n'était pas posée au printemps, elle va être posée cet hiver et ça va donner une nouvelle impulsion à la crise. Donc là, on va avoir effectivement quelque chose de très grave. Et si on regarde les chiffres du chômage, il est clair qu'ils vont monter fortement. Alors, dans le cas des États-Unis, où il faut ajouter que le calcul du taux de chômage ne se fait pas comme en France, et il se fait en fait sur une population réduite par rapport à la population qui est prise en compte en France. Bon, c'est des cadres statistiques, si vous voulez. Je ne dis pas que les calculs américains soient plus mauvais et les nôtres meilleurs, je dis simplement qu'il y a deux concepts statistiques différents. Bon. Nous étions, en août 2007, à 4,5% de chômeurs aux États-Unis. Si on avait utilisé les données, le mode de calcul français, on aurait été autour de 6,5, 7% au moins. Bon. Mais on était à 4,5% dans leur système statistique. Nous sommes aujourd'hui pratiquement à 7%, à 6,9%, d'après ce qu'on pense, pour novembre 2008. Les États-Unis seront à la fin 2009 entre 9 et 9,5%. C'est-à-dire que le taux de chômage va, dans leurs critères statistiques, doubler. Nous allons connaître des évolutions du même ordre en Grande-Bretagne et en Espagne. On peut penser qu'en Espagne, qui est un pays plus petit que la France, on sera entre 3 millions et 3 millions et demi de chômeurs à la fin de 2009. Évidemment, en France, nous allons aussi subir un phénomène de ce type, peut-être moins fort parce que notre économie ayant été moins libéralisée d'une certaine manière que l'économie britannique, espagnole ou américaine, nous subirons un petit peu moins les effets de la crise, et puis ça dépendra beaucoup des mesures que l'État prendra dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je veux dire, malgré tout, il y a une capacité de réaction de la part du gouvernement, s'il veut bien le faire, c'est évident. Mais il faut s'attendre à une forte remontée du chômage, et dans l'ensemble de l'Europe et du monde développé, d'une certaine manière, nous allons revenir à la fin 2009, pour l'hiver 2009-2010, dans un an, à une situation de chômage de masse.
Et qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, comme toujours ? C'est faire des politiques de plein emploi. Ces politiques de plein emploi existent, mais il faut bien en voir les contraintes. Pour que l'emploi se développe, il faut que la demande intérieure se développe. On n'a jamais vu des entreprises développer leur production si elles n'ont pas de marché. Pour que la demande intérieure se développe, il faut que les salariés gagnent plus d'argent. Mais vous ne pouvez pas accorder des augmentations de salaire aujourd'hui tant que le produit fait par ces salariés sera mis en concurrence contre des produits faits à des coûts beaucoup plus faibles. De ce point de vue, les dirigeants du MEDEF ont raison quand ils disent qu'ils ne peuvent pas accroître les salaires et que si on augmente les salaires, tout ce que vous, de manière réglementaire par exemple, La seule chose que vous obtiendrez, c'est un accroissement des délocalisations. C'est vrai. Dans ces conditions-là, il faut retrouver des marges de manœuvre de la politique économique, et ça s'appelle le protectionnisme. Nous y revenons, nous n'en sortirons pas. Deuxièmement, il est clair qu'il va falloir faire de la dépense publique. Et cette dépense publique n'est possible que si l'on se donne des moyens de financement, mais qui implique d'une certaine manière que l'on retrouve une autonomie en matière de détermination de taux d'intérêt et de conditions de financement. Cela s'appelle le contrôle sur les mouvements de capitaux. Il serait souhaitable que ceci se passe au niveau de la zone euro, ça serait de très loin la meilleure solution. Mais si ce n'est pas possible dans l'intérieur de la zone euro, nous aboutirons, qu'on le veuille ou non, à un éclatement de la zone euro et il faudra le faire au niveau national. J'ai vu dans l'ex-Union soviétique comment sont reconstituées des monnaies. Ce n'est pas difficile de recréer une monnaie nationale. Cela s'est vu ces dernières années dans beaucoup de pays, en réalité. Et la véritable question que l'on doit poser aujourd'hui, c'est existe-t-il une volonté commune de faire évoluer la zone euro de telle manière à ce que les pays qui soient membres de la zone euro puissent mener des politiques de plein emploi? Si cette volonté commune existe, l'euro survivra dans sa forme actuelle. Ou devra-t-on faire le constat dans les semaines qui viennent que cette volonté commune n'existe pas? Si nous faisons ce constat, alors il faut être clair, la zone euro ne survivra pas, et le plus vite nous en sortirons, le mieux nous serons. Ça ne condamne pas de manière irrémédiable la zone euro. Il est possible par ailleurs que l'euro survive non plus comme monnaie unique, mais comme monnaie commune. On peut penser d'ailleurs que la réforme la plus intelligente serait celle qui transformerait la zone euro en un espèce de système monétaire homogène au niveau de l'Europe, où nous aurions une monnaie, l'euro, qui serait la seule convertible dans les monnaies hors zone, le dollar, le yen, le yuan, la livre, etc. Et nous aurions des monnaies nationales définies uniquement en euros, avec des taux de change fixes, mais révisables de manière à tenir compte tous les ans des différences de dynamique économique que nous avons entre les pays. D'ailleurs, une telle zone, je le signale, pourrait s'élargir beaucoup plus facilement que la zone euro actuelle. Il serait beaucoup plus facile pour des pays qui ne sont pas encore dans la zone euro d'y rentrer dans ce type de situation. Il serait même possible pour des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, comme la Turquie, de s'arrimer au système et de dire « désormais, la livre turque n'est convertible qu'en euros, et puis nous ajustons notre taux de change ». Donc ce serait en réalité un mécanisme d'intégration beaucoup plus puissant que la zone euro telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Je crains malheureusement que les élites politiques ne seront pas capables de prendre le virage à temps et que donc nous irons au drame, des pays seront obligés de sortir de la zone euro et la zone euro explosera sans que l'on ait pensé à un système de secours, à un système alternatif.
Tout à l'heure, vous preniez à nouveau le protectionnisme. Pourtant, le G20 s'est félicité justement de la défense qu'il avait faite du libre-échange. Donc on n'est pas parti du tout dans la direction que vous pouvez souhaiter.
Oui, mais je ne donne pas 6 mois pour que les dirigeants du G20 se déjugent et se renient. Quand on voit l'ensemble des pressions qui montent aux États-Unis sur la nouvelle administration, sur l'administration de Barack Obama, je suis persuadé que nous aurons assez rapidement des mesures protectionnistes aux États-Unis. Et Obama pourra toujours dire que lui n'a pas signé le communiqué du G20, ce qui est entièrement exact. D'ailleurs, quel sens cela avait-il de faire un G20 avec une administration américaine finissante. On peut se poser la question. Nous savons très bien que la signature américaine n'engage en réalité que l'administration Bush, qu'une nouvelle administration pourra toujours prétendre qu'elle a un autre mandat, qu'elle n'a pas été partie prenante aux négociations. Et vous avez remarqué comment Obama s'est bien gardé de demander à être partie prenante de la délégation américaine. Il veut se garder de main libre. De son point de vue, il a entièrement raison, d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose de très intelligent de son point de vue. Mais ça veut dire quand même que nous allons vers des reniements dans différents pays. Et je pense que ce G20 restera dans l'histoire comme l'une des plus tragiques mascarades que nous avons eues en matière économique internationale.
Donc, plusieurs fois, vous avez évoqué une politique de plein emploi. C'est quelque chose qu'on n'entend pas clairement dans la bouche des politiques. Vous êtes un presque novateur, du coup.
Alors, on peut utiliser d'autres formules, si vous voulez. Quand des dirigeants politiques disent qu'il faut lutter contre la crise, qu'il faut défendre l'emploi, il parle en réalité de politique de plein emploi. Le mot politique de plein emploi, d'ailleurs, est le mot qu'utilisent spontanément les économistes quand ils parlent de ce type de politique. Les politiques, eux, vont plutôt parler de politique de relance. C'est un vocabulaire d'économiste que vous pouvez trouver, d'ailleurs, sous la plume d'autres économistes, en particulier aux États-Unis, de gens qui ne sont pas très loin de Barack Obama. Je pense à Nouriel Roubini, je pense à Joseph Stiglitz, qui parlent aussi de full employment policy. Bon, nous avons aussi des collègues britanniques qui utilisent ce terme. Ça veut dire, concrètement, que l'on veut faire baisser le taux de chômage, en fait, non pas jusqu'au niveau du taux de chômage naturel, parce que nous ne savons pas ce qu'il est, et je pense que c'est un faux concept, je pense qu'il n'y a pas de taux de chômage naturel, mais disons jusqu'au niveau du chômage frictionnel. C'est-à-dire au moment où, et nous le savons, même en situation de plein emploi, il y a toujours des gens qui passent d'un emploi à l'autre. Et c'est cela qu'on doit se fixer, effectivement, comme objectif. Les politiques de plein emploi sont possibles, mais à une condition. C'est que nous retrouvions la totalité de nos instruments de politique économique, la politique budgétaire, la politique monétaire, la politique industrielle. Il nous faut les trois. Et cela veut donc dire des ajustements importants dans les règles que nous connaissons. Et je rappelle, là encore, que Keynes, qui est le grand inspirateur des politiques de plein emploi, quand il commence à réfléchir à ce que sera le monde d'après-guerre, il y réfléchit très tôt. Octobre 1941, la guerre est loin d'être gagnée. Les États-Unis ne sont même pas encore dans la guerre. Ils n'y rentreront que le 7 décembre 1941. Quand Keynes commence à réfléchir à ce que sera l'organisation du monde après-guerre, il dit, et il le dit très explicitement, personne ne peut prétendre le contraire. Il faut d'une part des règles. Autrement dit, il faut que tous les pays acceptent des codes de bonne conduite. Mais il faut en même temps que ces règles ne soient pas antinomiques avec la liberté d'action des politiques économiques. Il veut à la fois de la règle et de la souveraineté. Et ça, c'est un point extrêmement important. C'est très explicitement écrit dans plusieurs des textes de Keynes de cette époque-là. Et il voit comme instrument capable de garantir à la fois l'existence de règles communes et l'existence d'une souveraineté économique pour chaque pays, ce qui fait le pont entre les deux notions, c'est que ne soient autorisés que les mouvements de capitaux directement liés à des transactions commerciales. Pour le reste, c'est le contrôle qui doit prévaloir, et il a des formules extrêmement précises contre la liberté des capitaux à court terme, en indiquant qu'aucun pays ne peut mener une politique saine s'il est soumis à la spéculation financière. Il le dit d'autant mieux qu'il ne faut pas oublier que Keynes n'est pas simplement un théoricien, c'est un praticien des mouvements de capitaux. Keynes a été un gérant de fonds de pension, comme on dirait aujourd'hui. Il a été un gérant de fonds spéculatifs, de hedge fund, même si la formule n'existe pas encore à l'époque. C'est quelqu'un qui, outre ses responsabilités d'enseignant et de conseiller économique, a été un praticien des marchés financiers. Et il est de ce point de vue-là extrêmement intéressant de voir que quand le praticien parle, c'est pour dire c'est dangereux. Il faut réglementer. Il faut limiter la liberté des capitaux. Beaucoup des économistes qui se sont fait les chantres de la liberté des capitaux n'ont pas la moindre idée de ce que c'est, parce que eux ne sont jamais sortis de leur bureau et ne sont jamais sortis de leurs études théoriques. Ils n'ont jamais mis les mains dans le cambouis. Il faut rappeler que Keynes l'a fait pendant toute une partie de sa vie, grosso modo de 1920 à 1935-1936. Il a commencé par perdre de l'argent, il en a gagné beaucoup par la suite. Il a d'ailleurs vécu jusqu'à sa mort tout autant de ce qu'il gagnait comme professeur à Cambridge que de l'argent qu'il avait gagné dans à la fin des années 20 et dans les années 30, quand il s'est amassé une fortune personnelle non négligeable. Et donc il savait de quoi il parlait. Ce que je crains beaucoup, c'est que les collègues qui parlent de liberté des capitaux, eux, n'ont jamais été en réalité dans la finance.